RFI Midi. Juliette Pietraszewski.
Tout de suite l'invité avec cette actualité en France. J-8 avant le premier tour des législatives. Des élections anticipées qui ont créé la surprise annoncée par le président Macron juste après les résultats des européennes. Le parti d'extrême droite français, le Rassemblement National, y a fait une percée historique avec plus de 31% des votes. Depuis lundi, la campagne bat son plein. On observe trois grands blocs politiques. À l'extrême droite, le Rassemblement National avec certains candidats des Républicains qui ont suivi Éric Ciotti. À gauche, le nouveau Front Populaire qui regroupe les partis du PS jusqu'à la France insoumise. Et puis il y a la majorité. Pour l'instant, dans les sondages, l'extrême droite est donnée en tête, suivie de près par l'Union de la gauche et enfin la majorité. Nous sommes avec Stéphane Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études pour l'Institut de sondage Cluster 17. Vous êtes également co-auteur de l'étude législative 2024, 5 thèses sur une élection pivot. Je le disais, le RN s'approche des 30% dans les sondages. Comment ce parti d'extrême droite a-t-il élargi son électorat ces dernières années ?
Alors, il dépasse même les 30% dans notre dernière étude publiée hier. Donc, sa progression, elle s'est effectuée en réalité en trois temps. Le Rassemblement National, ou en tout cas même le Front National, puisqu'il s'appelait encore comme ça quand Marine Le Pen en a pris la direction, a d'abord prospéré sur un cercle d'électorat populaire, assez anti-système, très ouvrier, voilà, classe sociale très défavorisée. Puis peu à peu, sur les 10 dernières années globalement, elle est parvenue à étendre son électorat à une droite plus classique, assez proche de l'électorat finalement de Nicolas Sarkozy ou de l'UMP du début des années 2010. Vous voyez, avec des électeurs qui sont à la fois assez radicaux sur la sécurité, sur l'immigration, etc., mais aussi de plus en plus, elle arrive à avoir un électorat qui est assez libéral économiquement, qui est plutôt anti-assistanat, anti-aide sociale, etc. Et c'est cette progression dans l'espace des droites classiques, en fait, qui aujourd'hui explique qu'elle est à plus de 30% et que le RN était la première force politique en France.
Alors, dans votre étude, vous attirez également l'attention sur le fait qu'Emmanuel Macron a perdu des électeurs à droite, alors que beaucoup pointent du doigt la droitisation du président. Comment vous l'expliquez ?
Tout à fait. Oui, Emmanuel Macron, il a perdu des électeurs sur sa gauche et sur sa droite. C'est pour ça que d'ailleurs on a un socle aujourd'hui de Renaissance qui est entre 15% aux européennes et puis aujourd'hui 18-19% dans les intentions de vote. Le principal facteur de ce déséquilibre, c'est qu'il a réinstauré du clivage gauche-droite tout au long de son septennat finalement, et que petit à petit, et les électeurs de gauche et les électeurs de droite ne s'y sont pas retrouvés totalement. Et en ce qui concerne les électeurs de droite, la demande de plus de frontières, de plus de nations, de plus de sécurité, l'idée que le pays décline, se délite, etc., est très très répandue. Et le Rassemblement National, qui lui a fait le mouvement inverse en se recentrant, et eh bien a su capter ses électeurs en partie, une petite partie, plus le fait que les Républicains, contrairement à ce qu'on disait, bon là ils traversent une mauvaise passe, mais on va dire jusqu'à la dissolution, ils se sont quand même plutôt maintenus à un niveau correct et stable, et aussi la reconquête qui est une nouvelle offre politique qui a émergé en 2022 et qui aussi vient concurrencer ces partis, donc Renaissance, Les Républicains et le RN sur l'espace des droites. Donc vous avez une forte concurrence finalement dans l'électorat de droite qui fait que Renaissance est moins 10 ans sur les principaux clivages qui traversent l'électorat de droite.
Et concernant la gauche, il y a une question en suspens. Que feront les électeurs de Raphaël Glucksmann aux européennes ? Est-ce que leur vote va se tourner vers le nouveau Front Populaire qui comprend la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et qui fait l'objet d'une défiance de la part des électeurs de gauche modérée ?
Tout à fait, bien sûr. Aujourd'hui, on a moins de 2/3 des électeurs de Raphaël Glucksmann qui disent voter pour le Front Populaire. Leur problème, si vous voulez, l'équation qui est difficile et qui fait que peut-être un vote utile est possible encore dans cet électorat en faveur du Front Populaire, c'est que les offres politiques sont très peu nombreuses. Dans la plupart des circonscriptions, vous avez 4, 5, 6 listes maximum qui seront candidates. Vous avez le parti présidentiel Renaissance qui s'est quand même, pour cet électorat-là, qui s'est quand même droitisé, qui allait trop loin dans ses réformes, notamment sur la réforme des retraites, sur la loi immigration, qui est très très mal passée dans cet électorat-là. Et donc finalement, vous avez une très faible concurrence qui fait que vous avez quand même des reports de voix assez robuste de la part de l'électorat de centre-gauche, mais en même temps, il s'y retrouve pas totalement parce que il soupçonne toujours cette alliance de gauche d'être trop proche de Jean-Luc Mélenchon, trop LFI, et donc l'incertitude règne encore aujourd'hui sur cet électorat. C'est un électorat qui est très hésitant, c'est un des seuls électorats aujourd'hui qui montre des signes d'incertitude par rapport à son choix de vote au premier tour. Donc c'est un électorat qu'il va falloir suivre en effet. En sachant que les signaux qui sont envoyés dans la campagne et par Renaissance et par le Front Populaire qui se disputent cet électorat-là ne sont pas très bons pour cet électorat. En vérité, personne aujourd'hui ne s'adresse à eux et c'est merci. Pourquoi ils sont particulièrement hésitants.
Merci beaucoup Stéphane Fournier pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes directeur d'études pour l'Institut de sondage Cluster 17 et co-auteur de l'étude législative 2024, 5 thèses sur une élection pivot.